Qu'est-ce que vous faites là?
Il émet des ondes radio.
Des ondes radio, mais pourquoi?
Silence! Silence, il va dire quelque chose.
Vous demandez, cher voisin, pourquoi je suis venu m'installer ici?
Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent.
Vous allez vivre des minutes extraordinaires.
Calade, ma radio.
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calama Radio, nous avons le plaisir de vous retrouver pour une émission en extérieur, en direct, une émission ultra mobile. On va se balader tout l'après-midi. Tout d'abord dans la maison où nous sommes actuellement, la maison Vermorel, hein, pas n'importe quelle maison. Mais vous commencez à avoir l'habitude un petit peu parce que à chaque équinoxe, on se donne rendez-vous, peu ou prou à une semaine près, pour se retrouver pour les saisons Vermorel. Et oui, l'équinoxe d'automne, c'était la semaine dernière. Donc on se retrouve, eh bien, aujourd'hui, samedi 5 octobre, pour l'automne Vermorel. Et bien, c'est une saison Vermorel un peu particulière cette année, Béatrice Berthou, comme ça je vous dis bonjour en même bonjour. Temps. C'est un peu particulier ce rendez-vous parce qu'aujourd'hui, il y avait quelque chose d'officiel, c'était l'inauguration.
Oui, tout à fait, c'est un grand jour si j'ose dire. Je crois que un jour qui ravit beaucoup de monde parce que pour aboutir à cette ouverture et à cette inauguration, il a fallu un certain nombre d'années, un certain nombre de partenariats, de collaborations, un budget aussi, des budgets et beaucoup de volonté aussi. Voilà. Et donc aujourd'hui, effectivement, oui, on est très très heureux de pouvoir réouvrir ce bien commun, ce patrimoine commun, hein, qui est aussi là pour être transmis aux générations futures. C'est une donation de la ville, vous le savez, en 2007. Et donc aujourd'hui, en effet, on est très heureux de pouvoir réouvrir les portes au public, ce qui était l'objectif du donateur, l'arrière-petit-fils de Victor et Georgette Vermorel, M. Aubouin Vermorel. Et donc aujourd'hui, c'est, je dirais presque, mission accomplie pour l'adjointe à la culture que je suis.
Et oui, j'allais le préciser. Donc vous êtes adjointe à la culture à la mairie de Villefranche. Vous avez suivi ce projet depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, un peu symboliquement, on a tenu à faire ce début d'émission à l'intérieur de la maison. Jusqu'à présent, on était à l'extérieur, des fois loin, on était dans le parc, et puis on s'est rapproché petit à petit.
Exactement.
Et aujourd'hui, voilà, on est rentré, on s'est mis au premier étage, on est sous la verrière, c'est vraiment un bel endroit.
On est bien.
Il y a une belle résonance. Je me dis, tiens, ça doit être agréable de chanter ici.
Oui,
vous avez dit, ça a commencé, cette histoire a commencé en 2007. Donc, ça fait il y a 17 ans.
17 ans, trois maires, plusieurs adjoints à la culture, plusieurs agents aussi à la direction de la culture.
Oui.
Voilà, avec beaucoup de participation à la fois en termes d'architectes des bâtiments de France, la DRAC, la ville. Les espaces verts, les bâtiments, enfin, c'est un projet collectivement porté, même si c'est la direction de la culture et je ne peux pas m'empêcher de penser à Sarah Loumetch qui a traversé avec moi ces quelques années, ces 8 ans puisqu'on a collaboré pendant 8 ans. Mais c'est vrai que ça fait 10 ans que je travaille avec l'équipe de la culture et avec le soutien évidemment de la ville de Villefranche, de mes collègues et de son maire Thomas Ravier. C'est vrai que c'est quand même très important de voir ce projet aboutir parce qu'il était assez complexe. La maison est grande. Elle est belle, mais il y a quelques étages.
Il y avait déjà toute une histoire de rénovation, de mise aux normes, de rénovation et en même temps de préservation. Mmh. Et puis après, il y avait l'idée, qu'est-ce qu'on va faire dans cette maison?
C'est ça.
Quels sont les projets? Comment on va la faire vivre? Comment on va aussi en faire une maison pour les Caladois et les Caladoises et pour les gens de passage aussi? Et que tout ça, ça demande beaucoup de réflexion, de travail, d'investissement.
Oui, il fallait qu'on se mette d'accord déjà au sein de notre majorité pour savoir ce qu'on faisait de ce lieu. On était tous d'accord pour dire que ce n'était pas un musée, qu'on voulait que le lieu vive, que les Caladois, les entreprises, les jeunes, les visiteurs puissent entrer dans cette maison et y trouver de nombreuses découvertes, pas seulement l'aspect patrimonial qui est au cœur du projet et qui est juste essentiel, hein, mais l'idée, c'est qu'ils puissent revenir. Alors, d'où l'idée du resto, d'où l'idée
justement,
de
travailler
avec les
artistes. Justement, là, ça ne passe pas dans les micros, mais voilà. Là, on sent que ça vit. On sent que ça vit, ça sent la nourriture, voilà, ça sent la cuisine, ouais. Ça sent bon.
L'idée, c'est ça, c'est d'apporter toujours quelque chose aux visiteurs, et au Caladois, donc c'était toute la gageure, c'est-à-dire qu'il fallait arriver à préserver ce patrimoine exceptionnel, et c'est fait. Il fallait trouver quand même 7 millions d'euros, et c'est fait. Et là, on a joué à plusieurs, hein, c'est collectif. L'État a été très présent, la région a été l'élément déclencheur, puisque c'est Laurent Wauquiez, quand j'étais vice-présidente en charge des lycées, à la région, qui a bien voulu inscrire cette maison au contrat de plan État-Région. Le directeur régional des affaires culturelles était là tout à l'heure, lui-même était très très heureux de voir ce qu'on avait pu en faire. Donc le département, bien sûr, que je représente aussi aujourd'hui en l'absence de Christophe Guillotot, a mis beaucoup d'argent dans ce projet. La ville, bien sûr. Et puis on est allé chercher aussi des entreprises, des mécènes, parce qu'aujourd'hui il faut aussi penser au fonctionnement. Ça, c'est le début de l'histoire, parce que vous avez vu le nombre de chambres, le nombre d'étages, le nombre de mètres carrés. Il y a quelques euros en ménage, en chauffage, et puis aussi en accueil, hein, voilà. Pour faire vivre ce lieu, il faut des bras, il faut des têtes, mm-hmm. Il faut des jambes. Et donc effectivement, c'est une ambition assez grande, et on est en passe d'y arriver. Donc c'est évidemment un grand plaisir pour la ville de Villefranche, que je représente aussi, ouais.
Alors maintenant que l'inauguration est faite, on va dire que le 99,9% de travail est derrière.
Il en reste un petit peu,
parce que j'avais peur que vous vous ennuyiez. Je dis, il va falloir trouver un nouveau projet. Il va falloir faire trouver.
À des projets comme ça, c'est des projets d'une vie. Émilie Steinmetz, ou Sarah Loumetch, Mélanie aujourd'hui, qui est chef de ce projet vers Morel, vous diront qu'il n'y en a pas des centaines des projets de ce type-là, surtout portés par une collectivité, avec cette volonté de garder l'intérêt général à travers le volet éducatif, le volet de transmission. À la fois du lieu, du patrimoine, mais aussi de la pratique artistique, puisqu'on a l'atelier de résidence d'artistes. Donc, si vous voulez, c'est quand même quelque chose, voilà, qui se construit et qui, en effet, nous tient à cœur. Et c'était pas gagné d'avance au départ.
Pour que ce projet ne reste pas dans l'ombre dans toute sa période de mise en œuvre, ont été organisées des saisons vers Morel, hein, oui. Depuis maintenant plus de 2 ans. Avec un rendez-vous tous les 3 mois, avec un programme, avec des exposants. Donc ce week-end, c'est encore le cas. Alors peut-être on va en parler avec vous, hein, Mélanie Brumand, ouais. Chef de projet culturel de la Direction des affaires culturelles de la ville de Villefranche. Cette journée, elle commence alors cette fois-ci avec l'inauguration, c'est-à-dire qu'on peut rentrer, on peut s'approprier cette maison, on peut rentrer dedans. Il y a des visites qui sont organisées et des visites un peu particulières. Est-ce que vous pouvez nous en parler, des visites immersives ?
Oui, bien sûr. Alors, le parti pris de la maison Vers Morel, c'est à la fois de parler du patrimoine, de l'histoire de cette maison, mais aussi d'aller de l'avant pour être aussi conforme à la personnalité de Victor Vers Morel, qui était un industriel et un inventaire.
Est-ce que c'est difficile d'être conforme à une personnalité non conforme ?
On fait du mieux qu'on peut, en voilà. Tout cas, pour y arriver. Et donc, ce que je voulais vous... Ce à quoi je voulais arriver, c'est au lieu de vous faire visiter la maison avec des appartements témoins, on vous propose de visiter la maison, d'en apprendre plus sur le bâtiment, sur la famille et sur le Beaujolais, par le biais de projections visuelles et sonores qui ont été travaillées en lien avec des entreprises de la région, et qui vous permettent d'avoir une vision contemporaine de tous ces différents sujets.
Alors, les visites immersives, pour aujourd'hui, ça se termine à 14h30, donc ça va être difficile puisque c'était sur inscription. Par contre, est-ce qu'il en reste de la place demain ?
Non, il ne reste pas de place pour demain.
C'est tout pris. Alors ça...
Oui, mais rassurez-vous, créneaux ont été ouverts pour le mois de novembre et de décembre. On a la chance d'avoir beaucoup de demandes, hein, pour les visites. Pour demain, nous sommes complets. Il faut savoir aussi qu'on a une capacité d'accueil qui est réglementée, la maison. Oui. Vers Morel est un lieu ERP, donc dans ce cadre, et pour le confort des visiteurs, nous devons accueillir un certain nombre de visiteurs par jour et pas plus. Donc c'est pour ça que c'est souvent complet longtemps à l'avance.
Le plus simple pour trouver des informations et pour pouvoir s'inscrire pour les visites à venir, c'est d'aller sur le site de la Maison Vermorel, j'imagine.
Tout à fait.
www.maisonvermorel.fr.
Exactement.
Et là, il y a tout ce qu'il faut pour
oui. connaître. Les liens pour s'inscrire, les informations. Là, par exemple, vous trouvez dès aujourd'hui l'information des ouvertures, des dates pour le mois de novembre et de décembre.
Très bien. Alors aujourd'hui aussi, tout autour de la maison, il y a une exposition de voitures Vermorel, parce que Vermorel, ce n'était pas qu'une maison, c'était aussi un constructeur de voitures. Donc on peut voir en vrai les voitures Vermorel. On ira rencontrer d'ailleurs l'association qui s'en occupe dans une poignée de minutes. Et puis, il y a aussi le marché de productrices et de producteurs de la région.
Exactement. Alors, pour la venue de la Fédération française des véhicules d'époque, je vais laisser Madame Berthoud en parler mieux que moi. Et après, je poursuivrai avec le marché de producteurs.
Voilà, on ne pouvait pas effectivement imaginer l'inauguration de cette maison sans quelques voitures Vermorel. Alors, comme vous le savez, Vermorel était un entrepreneur innovant qui a réussi. Il a commencé avec les pulvérisateurs, mais il a aussi fait des moteurs, des machines agricoles, des voitures. Alors, c'est vrai que les pulvérisateurs, c'est quand même un peu moins sexy que les voitures. Ces voitures, on les aime bien. Elles sont belles, elles sont colorées. Elles marchent ou elles ne marchent pas, mais elles sont quand même toujours aussi attractive pour
ça les, permet
pour
de faire un saut dans le temps en plus.
Hein. Oui, c'est chouette. Et je discutais avec le directeur régional des affaires culturelles qui m'expliquait que dans beaucoup d'endroits, les voitures faisaient partie intégrante de l'aspect culturel et patrimonial parce que c'est justement un objet d'une certaine époque et que voilà, c'est pas anachronique ou c'est pas non plus une mauvaise idée. Au contraire, c'est vraiment aussi un savoir-faire et ça nous renvoie à cette époque. Ça met un petit peu de couleur aussi dans le parc, c'est sympa. Et donc oui, ce partenariat avec la Fédération française des véhicules d'époque, c'est l'idée de mettre donc ce lieu comme, enfin de reconnaître ce lieu ici, la maison de Victor et Georgette Vermorel, comme un lieu historique de l'automobile, puisque les usines Vermorel étaient juste en face et que à ce titre-là, on peut bénéficier de ce label donc lieu historique de l'automobile. Donc c'est aussi effectivement une façon de rendre hommage et de faire vivre le lieu. Ce lieu, il est collectif, c'est-à-dire qu'on travaille avec tous ceux qui veulent apporter quelque chose à ce projet. On essaye d'y donner du sens, mais je pense que ça, on est en train d'y arriver. Mais voilà, l'idée, c'est qu'ici, chacun soit un petit peu chez soi. Alors, il y a des règles à respecter, il y a des temps à respecter, il y a des inscriptions à respecter. Mais en fait, l'idée, c'est que ce soit vraiment ouvert à tous. Pour le confort, voilà, tout à fait. Et donc, la Fédération française des véhicules d'époque est très heureuse de pouvoir être à Villefranche aujourd'hui et de découvrir ce magnifique bâtiment et puis de découvrir aussi donc les producteurs du Beaujolais, puisque c'est aussi l'idée depuis longtemps de faire dans ce parc, vous étiez déjà là à plusieurs reprises, un marché de créateurs, de producteurs. Et donc là, je laisse la parole à Mélanie qui va vous en dire un petit peu plus.
Oui, oui, tout à fait. Bah, l'idée, c'est de valoriser en fait les talents, les artisans de la région. Donc là, il y a une dizaine de producteurs et d'artisans qui sont à l'extérieur. Vous trouverez aussi bien du vin du domaine David Large, que des savons qui sont fabriqués entièrement à la main et qui sont bien meilleurs pour la peau que certains autres produits fabriqués industriellement. Voilà, une céramiste, une productrice de safran du Beaujolais. Voilà, c'est quand même pas commun, donc autant le valoriser. Et l'idée, c'est de permettre aussi de... En fait, comme vous le disiez, Mme Berthoud, la maison Vermorel, c'est aussi un tout. Cette maison, elle est sur un parc. On a la chance d'avoir une très belle serre qui a été restaurée devant. Et ben, l'idée, c'est d'occuper l'intérieur de la maison, l'extérieur, de faire bénéficier au public de différentes ambiances et leur proposer différentes propositions.
Et comme on a l'automne Vermorel, et que l'automne, cette année, s'est invité vraiment en même temps que l'automne.
Ce week-end, spécifiquement ce week-end, pour notre plus grand plaisir.
Parmi
on est en cohérence parfaite.
Il y a de quoi faire le plein de tisane, j'ai vu.
Oui, exactement. Exactement.
De tisane, de cueillette, tout ce qu'il faut pour les infusions au chaud pour,
tout à fait. Oui, oui.
pour l'automne.
Et on a aussi un endroit pour se restaurer, puisque Hassan Hage, le chef de la table Vermorel, le restaurant de la maison, nous fait le plaisir d'avoir lui aussi un espace sur ce marché de producteurs, alors qu'il est ouvert en même temps dans son restaurant au rez-de-jardin de la maison. Donc on peut se réchauffer aussi par la gastronomie.
Et puis avant de partir se balader, puisque nous on va partir avec Mathieu qui réalise cette émission, on va partir se balader tout autour de la maison justement pour rencontrer les producteurs et les productrices, pour aller voir les véhicules vers Morel, enfin voilà, faire notre petit tour. Il y a aussi à 18h, cette fois-ci, une pièce de théâtre.
Exactement, de la compagnie Théâtre en Pierre Dorée. Le nom de la pièce, c'est donc Terre et Toi 2, puisque vous qui étiez là en septembre dernier, en septembre 2023, on avait pu faire une représentation dans le Théâtre de Verdure du Parc Vermorel en extérieur du volet 1. Et là, nous vous présentons en intérieur, dans la maison Vermorel, le volet 2. Donc c'est complet, j'anticipe aussi, votre question.
Après... c'était surtout pour qu'on ne donne pas envie aux gens de venir dire oh, tiens, 18h, on n'a rien de prévu, si on allait faire un tour pour regarder la pièce.
Oui, après, pour ces personnes-là, il y a le marché de producteurs qui dure jusqu'à 19h. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, ils ne trouveront pas porte close. Et puis, parfois, il y a des gens aussi qui s'inscrivent et qui ne viennent pas, puisque cette représentation, comme beaucoup des présentations que nous proposons, est gratuite.
Donc, oui, l'inscription, c'est vraiment une inscription pour une
Des raisons de sécurité. Donc voilà, le marché de producteurs et la partie restauration sont présents jusqu'à 19h. Et puis, pour la beauté de découvrir aussi le parc.
Rencontrerons à 15h, justement, la compagnie.
Exactement, Damien Gouy notamment, qui viendra vous rendre visite pour vous parler un peu mieux de ce travail et de cette commande de la direction de la culture, de création en fait. Hein. C'est une création.
En tout cas, c'était un vrai plaisir de pouvoir se mettre à l'intérieur de la maison, de pouvoir faire cette interview à l'intérieur de la maison, ici sur le... Alors je sais pas, on appelle la galerie, le balcon, je sais pas trop comment on appelle ça.
Le hall.
Le hall.
Le hall, on est au R+, hein, à l'étage numéro 1. Il y a un étage au-dessus de nous et ensuite vous avez la verrière pour les auditeurs qui ne sont pas présents.
Il y a une belle hauteur sous plafond comme on dit souvent quand on visite une maison.
Ça va.
Il y a quelques mètres carrés. En tout cas, c'est un peu une vitrine, vous l'avez compris. Et c'est aussi l'idée de faire la promotion du Beaujolais, de Villefranche et du patrimoine.
Et de ces différents acteurs artistiques, économiques et culinaires, bien sûr.
Merci Mélanie Brumand et merci Béatrice Berthoux.
Merci à vous.
Merci. Nous, on va aller déambuler un peu, s'amuser, rencontrer, peut-être faire le plein de tisanes, je ne sais pas, on va voir.
Il y a des chocolats aussi.
C'est vrai qu'il y a
chocolat de poche.
Chocolat de poche qu'on peut planquer dans une bibliothèque. Oui, c'est pas mal, ça, quand même aussi. Hein. J'avoue. Merci en tout cas à vous. Et nous, on fait une petite pause musicale, le temps de descendre l'escalier, d'aller se balader dehors. Restez à l'écoute de Calade.
Calade.
Ma radio. Ma radio.
If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on.
Calade.
Ma radio.
Nous sommes toujours en direct depuis la maison Vermorel. Alors maintenant, nous sommes devant la maison Vermorel, dans le soleil. On a commencé dans le feutré avec Yann Wahori, comme ça, sympathiquement. Un bon choix de Mathieu qui réalise l'émission. Et là, nous sommes approchés du marché de producteurs et on commence avec Marie de la savonnerie artisanale Jack. Bonjour Marie.
Bonjour.
Une savonnerie artisanale.
C'est ça, exactement.
Quelle drôle d'idée quand on nous dit maintenant, ah, le savon, c'est pas bon, il faut prendre des gels douche, sans savon d'ailleurs, il faut faire...
Bah alors, au contraire, justement, les
et
savons...
Et j'étais sûre que vous allez me dire ça.
Ouais, c'est ça. Les savons sont très doux pour la peau. En particulier, moi, je fabrique en saponification à froid. Donc, ça permet d'avoir des savons qui sont justement avec un surgras, qui sont très doux pour la peau.
Est-ce qu'on peut... Alors, on ne va pas faire un cours de chimie, mais simplement dire une saponification à froid. On mélange... En fait, on ne mélange pas vraiment beaucoup de choses. On mélange un corps gras, une huile.
Exactement.
Souvent d'origine végétale.
Exactement. Moi,
alors que dans l'industrie, on utilise des suies animales, c'est-à-dire des mauvaises graisses animales, hein, c'est
souvent,
ça ?
Souvent, effectivement, on ne s'en rend pas forcément
on
compte.
On met mais... de la soude avec ?
Avec de la soude, c'est ça. Moi, je rajoute aussi des argiles, des ocres, qui me permettent d'obtenir des jolies couleurs.
Oui.
Et des huiles essentielles pour les parfums. Et en fait, en mélangeant ça, la saponification va se mettre en place.
Et forcément, on met toujours un tout petit peu plus d'huile que de soude pour éviter les problèmes.
Exactement.
Donc, il reste toujours un petit peu... c'est pour ça qu'on appelle ça un savon surgras.
C'est ça, le surgras. Donc moi,
par
exemple,
si j'avais bien retenu ma leçon.
Exactement, c'est parfait. Donc moi, j'ai 8% de surgras. Donc ça permet justement d'avoir des savons qui sont bien hydratants et donc qui vont convenir à toutes les peaux, même à des gens qui ont la peau très sèche notamment, ou même pour les enfants. Donc, ça convient à toutes les personnes de la famille.
On est en extérieur, ça sent bon. Mmh. C'est vrai que ça sent... Ouais. Alors, sur votre étal, vous proposez différents types de savons. Là, je vois, alors ça, c'est le savon ménager, c'est-à-dire c'est le...
C'est ça. Alors, le savon ménager, c'est vraiment un savon bien polyvalent, très dégraissant, qu'on va utiliser aussi bien pour faire la vaisselle, par exemple, en détachant sur le linge, Donc c'est un savon super polyvalent pour la maison.
On peut même couper avec le couteau pour mélanger, pour faire des produits, des choses comme ça.
Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je me fabrique un détachant comme ça, justement, à partir de ce savon. Donc vraiment plus à usage ménager. Et là, justement, il n'y aura pas de surgras dans celui-là.
Donc celui-ci, voilà, il a...
C'est ça, c'est vraiment dégraissant et nettoyant.
On peut même s'en servir pour, par exemple, sur le linge, quand il y a une bonne tache.
Ouais, exactement. Ouais, juste avant de passer en machine, on le frotte sur le linge. Et on peut l'utiliser pour nettoyer des surfaces dans la maison, la salle de bain. C'est vraiment très polyvalent.
Alors ensuite, il y a vos savons.
Oui, les savons.
Avec, qui ont une forme de savonnette. Hein.
Oui, c'est ça, des savonnettes.
Comme ça, au moins, on s'y retrouve. Ouais.
Et voilà, là, qu'on peut utiliser aussi bien sous la douche pour le corps, pour le visage, les mains. Et après, moi, je les décline plutôt avec des parfums différents, qui sont tous des parfums à base d'huile essentielle.
Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait...
Alors, par exemple, on a le yuzu mandarine, qui a une odeur assez fruitée, acidulée.
Par exemple, venez, faisons tout, on va les voir ensemble, ça peut être sympa. Alors, je sais qu'à la radio, on ne peut pas bien sentir.
C'est dommage, d'ailleurs.
Ah, merci, on a un assistant, on a un monsieur qui vient sur... C'est yuzu mandarine.
Donc là, le yuzu mandarine, par exemple, une odeur d'agrumes, et c'est vraiment une des synergies d'huile essentielle.
En vrai, il est beau ce savon, et comme il sent bon,
il a une jolie couleur, une jolie couleur jaune, c'est les ocres du Vaucluse, du coup, oui, qui me permettent d'obtenir cette teinte-là.
Avec du yuzu et de la mandarine, oui, c'est... Ouais. Mais alors, c'est doux, c'est agréable.
En fait, c'est ça, les huiles essentielles, ça fait vraiment des odeurs qui sont à la fois bien présentes, mais qui restent assez douces pour le nez.
Vous savez, les amis, ce que j'aime bien, moi, avec les savons artisanaux, c'est qu'on voit, en fait, on voit la trace de la découpe comme ça.
Oui.
Il y a des belles imperfections, parce qu'en fait, quand tout est parfait, ça veut dire que ça a été moulé, que ça a été...
Exactement.
Et là on sent, en fait, on voit qu'il y a eu votre geste. Il y a une histoire, il y a quelque chose.
C'est ça. Tout est vraiment fait main. Hein. C'est une méthode vraiment artisanale. Donc, la fabrication des savons, leur découpe, la mise en packaging, c'est chaque étape, c'est tout est fait main.
Fleur d'oranger, alors ça doit être sympa, ça.
Celui-là, il est assez envoûtant, assez fort comme parfum, justement.
Ah ouais, il est trop...
Quand on aime la fleur d'oranger,
ah oui, c'est mon cas.
Ouais, on a son compte, là.
On voit grenade passion, amande pistache, on se croirait chez le glacier.
C'est vrai. Bah, le amande pistache, il est assez gourmand. Ah, et c'est le seul savon qui est un petit peu exfoliant pour ceux qui aiment bien ce type de savon.
Menthe qui est plus... Alors celui-là, nude.
Alors le nude, c'est le seul qui est sans parfum, sans huile essentielle.
Sans parfum, d'accord.
Voilà, pour les tout-petits, par exemple, pour les nouveau-nés, pour les personnes aussi qui aiment bien avoir... juste l'odeur naturelle du savon, on a quand même l'odeur des huiles. Mais du coup, voilà, il n'y a pas du tout de parfum dans celui-là.
Donc par exemple, si je regarde la composition, vous travaillez donc avec de l'huile de tournesol,
c'est ça,
de l'huile de coco et du beurre de karité.
Ouais, ça c'est vraiment les trois huiles que j'utilise sur tous mes savons. Ça permet d'avoir des savons qui justement sont suffisamment hydratants, se tiennent bien aussi, qui sèchent bien. Et après, je décline avec, voilà, en fonction de plutôt des parfums.
Et alors ça, c'est des filets dans lesquels il y a des savons, mais on peut se laver avec, c'est ça?
Oui, en fait, l'idée, c'est vraiment d'utiliser ces filets pour passer vos chutes de savon. Quand vous avez des tout petits bouts, vous ne savez plus comment les utiliser, vous les mettez dans le filet en coton.
D'accord.
Et après, vous l'utilisez comme un gant. Ça permet de passer vraiment jusqu'au bout les derniers restes de savon.
Ah oui, comme ça, parce que quand il reste qu'un petit truc, on ne sait pas quoi en faire.
Bah, c'est ça. Après... Donc, il y en a qui les collent entre eux. Il y a tout le monde a une technique différente. Mais là, au moins, vous pouvez vraiment les utiliser jusqu'au bout. Et à l'intérieur, moi, c'est des chutes de la fabrication que j'offre avec.
D'accord.
Ça me permet de valoriser aussi, moi, les petites chutes de découpe.
Alors, je vois que vous faites quelque chose aussi qui est de plus en plus à la mode, c'est le shampoing solide. Mmh. Parce que c'est vrai, quand on achète du shampoing, on achète surtout de l'eau, en fait.
Exactement. Bah là, du coup, ça permet d'avoir un produit sans eau, donc sans
alors,
conservateur.
Alors, du coup, moi, j'ai deux questions à vous poser, puisque vous êtes une professionnelle, et peut-être que vous allez m'aider à remporter comme ça une belle victoire. Est-ce qu'on peut se laver les cheveux avec du savon normal? Et quelle est la différence entre un shampoing solide et un savon?
Alors, idéalement, en fait, le shampoing solide, j'utilise un autre tensioactif que le savon, qui est à base d'huile de coco. Et en fait, ça permet d'avoir un shampoing qui est adapté au pH des cheveux, parce qu'on n'a pas le même pH sur la peau et les cheveux.
D'accord.
Et donc, ça permet justement d'avoir un produit qui va être adapté, qui va éviter les effets poisseux, par exemple, qu'on peut retrouver avec certains produits qui sont plutôt des savons, justement. Et donc, ça est vraiment adapté au cuir chevelu et ça permet d'avoir les cheveux...
C'est vrai qu'on dit que nous, les hommes, on a tendance à se laver tout avec cheveux, des trucs comme ça, avec le savon de cuisine, là, quoi.
Effectivement, j'en connais.
Le savon de Marseille. Et puis, le jour où on rencontre quelqu'un, on dit, mais quoi, comment ça? T'as pas un savon pour les cheveux, t'as pas un savon pour le haut du visage et un autre pour le bas du visage. On se fait... Enfin, je sais pas, je vois autour de moi des... Il y a des garçons qui disent oui, c'est vrai.
Ouais. Alors sur les cheveux courts, effectivement, j'en connais plusieurs qui ne font pas forcément bien la différence. Après, sur des cheveux longs, là, ça va vraiment avoir son importance d'avoir un shampoing qui est adapté et qui justement a un pH proche du cheveu. Et ça permet d'avoir des cheveux souples et doux et pas asséchés par le soin.
Alors maintenant qu'on a fait quand même un peu le tour de ce que vous faites. Mm-hmm. J'ai envie de vous demander, mais pourquoi vous le faites ? Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir ouvrir une savonnerie artisanale et à vous lancer dans cette aventure ? Parce que peut-être que ce n'était pas ce que vous aviez imaginé de votre vie, je sais pas, il y a 10 ans en arrière ou avant. Et puis un jour, ça s'est imposé à vous. Est-ce que vous voulez bien partager ça avec nous ?
Moi, c'était vraiment une reconversion professionnelle. Je ne travaillais pas du tout dans cet univers. J'étais dans l'univers du jouet, en marketing, donc pas du tout prédestinée à la savonnerie. Et un jour, j'ai vraiment eu envie de faire quelque chose de nouveau, de revenir à... aussi un travail manuel, de fabriquer, de vraiment partir de zéro, de créer tout le produit.
Est-ce que c'est parce que aussi vous n'avez pas trouvé ce que vous vouliez trouver, ce qui vous correspondait à vous, ou est-ce que c'est un événement qui vous a...
En fait, c'était la période sortie, enfin période de Covid, je pense que c'est pas très original, mais du coup, période de Covid, moi j'avais...
Une période de remise en cause en même temps.
Ouais, voilà, c'est ça, j'avais 30 ans, j'avais envie de, voilà, peut-être de faire quelque chose de différent, de nouveau. Et donc, c'est arrivé au bon moment, je me suis lancée, je me suis formée. Et je me suis dit, allez, on y va, c'est parti, on essaye, on tente cette expérience. Et en fait, les savons, moi, j'étais déjà dans une démarche zéro déchet à la maison. Mmh. Donc, je commençais déjà à fabriquer mes shampoings solides, etc. Donc, ça me parlait beaucoup. Et j'ai découvert la saponification à froid quand j'étais en pleine recherche, justement, d'un nouveau projet. Et je suis vraiment tombée un peu amoureuse de cette méthode de fabrication et le plaisir de travailler avec les couleurs, avec les parfums différents. Et créer à la fois un produit qui est un produit utile et qui a du sens au quotidien.
On voit effectivement, c'est un produit que vous déclinez, vous avez travaillé une gamme. Et en même temps, vous n'avez pas une proposition trop.
Non, c'est ça. Bah, j'ai 7 savons pour le corps, 3 shampoings solides et le savon ménager. Et en fait, moi,
ça, c'était un choix aussi de ne pas partir sur du trop et puis d'essayer d'être cohérente. Enfin,
Exactement. Et puis, en fait, tout simplement, moi, je fabrique tout toute seule. Donc, je fais tout moi-même. Donc, après, c'est aussi, en termes de capacité de production, si je veux continuer à travailler de cette façon-là et faire les choses bien et continuer à travailler vraiment manuellement, du coup, ça a du sens aussi de rester sur une gamme plus courte, mais qui est cohérente aussi avec des produits utiles.
Où est installé votre atelier ?
Alors du coup, moi, je suis basée sur Reims et je fabrique dans mon laboratoire qui est sur Polémio Mont d'Or.
D'accord.
Voilà.
Donc sur Reims, vous avez une boutique ?
Sur Reims, non, j'ai pas de boutique. Du coup, je vends sur ma boutique en ligne.
D'accord.
Sur les marchés, les événements, un peu comme aujourd'hui, du coup, pour me faire connaître. Et puis dans quelques points de vente vendeurs sur Villefranche, Thésée, Trévoux, dans des épiceries Vrac, par exemple.
D'accord. Et alors, si on veut voir ce que vous faites et peut-être commander en ligne, quelle est la meilleure façon de s'y prendre ?
Alors, pour commander en ligne, on peut se rendre sur le site, donc c'est jack-savonnerie.fr. Et sur le site, on peut soit commander avec une livraison un peu partout en France, soit choisir un retrait gratuit sur Reims. Donc comme D'accord. ça, pour toutes les personnes qui habitent dans le coin et qui veulent éviter les frais de livraison, elles peuvent choisir ce retrait gratuit. Et moi, après, soit je vous livre, soit je vous donne un rendez-vous. Vous pouvez retirer gratuitement votre colis.
Et bien sûr, j'imagine qu'on peut vous suivre sur... Parce que j'ai pas oublié, vous avez fait du marketing. Donc forcément, vous avez pensé aux réseaux sociaux et à tout ça.
Évidemment, du coup, sur Instagram et sur Facebook. Et là, je partage souvent les coulisses justement de la fabrication pour ceux qui sont un peu curieux, qui voudraient voir à quoi ressemble la fabrication des savons, qu'ils n'hésitent pas à aller faire un tour justement pour voir les coulisses de la savonnerie.
Eh bien, merci Marie de la savonnerie artisanale Jack.
Merci à vous.
Vous êtes présente en tout cas aujourd'hui sur ce marché de producteurs. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez venir faire un tour. En plus, il fait beau, il y a des arbres, il y a la belle maison. Il y a une petite ambiance feutrée qui est sympa. Nous, on fait une petite pause en musique avant d'aller à la rencontre de nouvelles productrices et producteurs. Et c'est avec First Aid Kit, My Silver Lining. Restez à l'écoute de Caladma Radio.
There's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice calling out for me. These shackles I made in a town
with no idea what or where I am. Something good comes with the bad. A song's never just sad. There's hope, there's a silver light. Show me my silver light. Show me my silver light. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in the town to be free. Be it for ease, be it for love. I won't take the easy road.
Calade
100.9.
Vous êtes toujours à l'écoute de Calade Ma Radio. Nous sommes en direct et en déambulation avec Mathieu autour de la maison Vermorel. On a commencé dans la maison et là, on est juste en face de l'entrée principale de la maison. Et nous sommes avec le chef Hassan Hadj, chef de la table Vermorel. Bonjour Hassan.
Bonjour.
Et aujourd'hui, vous faites comme nous, vous êtes sortis.
Il y a le soleil. On essaye de profiter.
On essaye de profiter. Mais non, mais c'est vrai qu'il fait beaucoup. Il y a meilleur temps que quand on est venu au printemps. Hein.
Tout à fait.
Et donc, maintenant, ça devient presque aussi une institution comme la maison Vermorel. C'est le pâté croûte Vermorel que vous proposez aujourd'hui à la dégustation sur votre stand. Alors, est-ce qu'on peut redire en quelques mots ce pâté croûte, cette création que vous avez pu faire pour cette maison Vermorel? Comment vous le mettez en œuvre? C'est un pâté croûte de poulet, si je me souviens bien, avec de la volaille de Bresse. J'essaie de me souvenir de notre dernière conversation.
Tout à fait, vous avez une bonne mémoire. Et en fait, aujourd'hui, quand on parle de la maison Vermorel, on parle aussi de pâté croûte. Et maison Vermorel égale pâté croûte. Et aujourd'hui, trois mois, après l'ouverture, quand je croise des Caladois dans la rue, à chaque fois que je dis que je suis le chef de la maison Vermorel, tout le monde me parle de mon pâté. Donc,
est-ce que vous n'avez pas peur que dans un an, il devienne tellement légendaire que tout le monde croit que c'est Victor Vermorel qui l'a inventé, ce pâté croûte?
Ah bah, tant mieux, même s'il l'a inventé, Victor Vermorel, il n'y a pas de mauvaise pub.
Bon, en tout cas, alors, un pâté croûte qui est donc 100% poulet, et vous étiez donné comme idée, c'est d'utiliser la totalité du poulet, c'est-à-dire jusqu'à la carcasse, les os, pour pouvoir faire la gélatine, toutes ces choses-là. Et puis,
Tout à fait, parce que souvent, quand on parle de pâté en croûte, on parle de pâté en croûte à base de porc. Mmh. Et nous, notre objectif, c'est de rendre le pâté démocratique à tout le monde, que tout le monde puisse le manger. Donc, et utiliser des produits locaux comme la volaille qui vient de l'Ain ou la volaille qui vient de Bresse. Donc on utilise une volaille entière qu'on décortique, les cuisses on les désosse, on les snack, les blancs on les laisse entiers mais on les hache en même temps que la farce, des fois on les hache aussi en même temps que la farce, on les fait flamber au cognac, déglacer au vinaigre de framboise. Et le tout est mélangé, mariné pendant 12 jours, et après monté, cuit, avec un insert au foie gras au milieu. Et on utilise la carcasse pour faire de la gelée.
C'est une recette du coup maintenant qui est soudée et qui aboutit, ou elle évolue encore parce que vous avez encore envie d'essayer des choses, je sais pas, ou est-ce que même cette recette elle a une saisonnalité en fonction des moments?
La recette qu'on sert en ce moment à la carte, elle est voulue dans le sens de la présentation dans l'assiette. Le mois de juin, on présentait avec une chutney maison qu'on faisait avec des abricots. Mm-hmm. Aujourd'hui, on sert le pâté avec un chutney de figues qui viennent de l'arbre de Marcel, qui est notre voisin.
D'accord.
Et l'ancien gardien.
C'est vrai qu'il y a un très beau figuier là-bas. Oui.
Tout à fait. Donc on a proposé de faire un échange contre une tranche de pâté croûte, et il est venu avec 10 kilos de figues. Et donc c'était gagnant-gagnant pour tout le monde. Oui, on a fait une confiture de figues et on sert aujourd'hui ce pâté avec cette confiture de figues. Après, on a souvent des pâtés en croûte en suggestion, donc avec des envies, des saisons qui changent. En ce moment, on a un pâté tout cochon, et parce que je suis en train de faire des tests et des essais, peut-être pour le championnat du monde de pâté en croûte. Et donc, on s'est fixé comme objectif, c'est de poser la question à tous nos clients, qu'est-ce qu'ils en pensent, et avoir le retour. Et peut-être, avec le retour des clients de restaurants, peut-être qu'on pourra gagner le championnat et ramener la coupe à Villefranche.
ce serait un beau challenge, ouais, à réussir. Et alors, Est-ce que c'est toujours possible, si on a envie d'apprendre à faire le pâté croûte vermorel, de pouvoir faire des cours avec vous pour apprendre?
Oui, c'est tout à fait possible. Je vous conseille de réserver à l'avance parce que les dates en fait sont limitées et souvent prises, sous 24 heures. Souvent, les ateliers sont complets. Le mois d'octobre, j'ai 6 dates des cours et les 6 sont complets déjà. Et même moi, je suis étonné de succès de ce cours, mais je pense que c'est un produit qui est réconfortant, c'est un produit qui est de retour à la mode, c'est un produit qui est niche et c'est un produit qui est bon. Donc moi, ça m'arrange aussi parce que ça me permet de manger tout le temps de pâté en croûte.
Je crois que c'est aussi un produit que nombreux sont celles et ceux qui ont des souvenirs d'enfance avec un pâté croûte qui était mangé en entrée d'un repas de famille ou d'un repas du dimanche. Mm-hmm. Et qu'on ne sait pas forcément bien réaliser à la maison. Donc c'est
bien
de pouvoir
l'apprendre. Oui, tout à fait. En soi, ce n'est pas très compliqué. C'est juste assez long et beaucoup d'étapes à respecter. Mais une fois que les étapes sont maîtrisées, c'est très facile. Et c'est une recette qui est très facile dans le sens où on peut mettre tout ce qu'on veut tant que les ingrédients de base sont bien respectés, les ratios sont bien respectés.
Eh bien, merci Hassan Hage pour ce petit échange qui a ouvert l'appétit.
Avec plaisir.
Donc, on rappelle que la table Vermorel, maintenant, elle est ouverte. Alors, c'est mieux sur réservation. On peut trouver tous les liens sur le site de la maison Vermorel. Mm-hmm. Et puis, la possibilité de faire des cours. Et puis, eh bien, on vous souhaite bonne chance pour ce concours, alors.
Merci beaucoup.
Ramenez-nous la coupe.
Oui, on va essayer.
Nous, on fait une petite pause en musique avec les Black Pumas et leur célèbre morceau Colors, mais avec un petit pas de côté parce que ce sera une belle version acoustique qu'on va vous proposer maintenant sur Calad, ma radio.
Woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean all night. Then I walk, I'll be shaded by the trees, by a meadow of green for about a mile. I'm headed to town, town, town in style, with all my favorite colors. Yes, sir, yeah. I got all my favorite colors right on. My sisters and my brothers see them like no other. All my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors. Colors. And my sisters and my brothers, they see them like no other. Take me to the other side, where the baby blues must fly, and gray clouds or white walls or blue skies. We're gonna fly, feel alright. Somebody help me feel alright today. Now we gonna hoop, 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 yeah. They sound like a whoop, whoop. Say I anticipate a homecoming parade as we beat a gate in the morning right on. With all my favorite colors, yes sir, I got all my favorite colors right on. My sisters and my brothers see them like no other. All my favorite colors are mine. It's a good day to be,
good day for me, a good day to see my favorite colors, colors. And my sisters and my brothers, they see them like no other, all my favorite colors. Side. With the baby blues, birds fly, and gray clouds, a white walls, a blue skies. We gon' fly, feel alright. Somebody help me feel alright today. Now, now we gon' do, 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 do. Yeah, they sound like a do, 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 do. Say, I anticipate a homecoming parade is beeping a gate in the morning light on. With all my favorite colors, yes, sir. All my favorite colors, right on. My sisters and my brothers, see them like no other. All my favorite colors. A good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors, colors, and my sisters and my brothers, see them like no other, all my favorite colors.
Calade, ma radio.
Rinetiti changi meriti
Calade, ma radio. Différente, curieuse et indépendante.
Toujours en direct sur Calade, ma radio, depuis la Maison Vermorel pour l'automne Vermorel. Vous venez d'écouter Goulan, c'est un artiste français qui nous vient de Nouvelle-Calédonie et que l'on entend, je trouve, que trop rarement. Et c'était le morceau Aloha. Et je suis maintenant avec Yves Claval. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé ?
Exactement ça.
Et vous êtes vice-président de la Fédération française des véhicules d'époque. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas là par hasard.
Ah, pas du tout. Aujourd'hui, donc, en même temps que l'inauguration de la maison Vermorel, nous sommes venus inaugurer un lieu de l'histoire automobile, donc sur la marque Vermorel.
Parce que vous, votre, ah, si j'osais, je dirais votre dada sur les vieilles voitures.
C'est plus un dada, c'est un sacerdoce, c'est tout ce qu'on veut. Là. L'automobile, c'est ma vie. C'est ma vie de... Quand on est à la FFE, de toute manière, on aime l'automobile.
Et puis, automobile ancienne, Vermorel a écrit une page dans l'histoire de l'automobile.
Une page dans l'histoire de l'automobile. Comme... Alors, ça fait partie des... Parce que la France donc, est le berceau de l'automobile, comme beaucoup de monde le sait. Et Vermorel, outre l'industrie, puisqu'elle s'est lancée à un moment dans l'automobile, et a fabriqué de très, très belles voitures et des voitures très performantes. Et donc, aujourd'hui, nous sommes là pour, on va dire, quelque part, rappeler cette histoire... aux gens d'ici et à tout le monde.
Et aujourd'hui, on les trouve très belles, ces voitures. Elles avaient une ligne quand même. Comme on dit, elles avaient de la gueule.
Elles avaient de la gueule, ça marchait bien.
C'est pas une Tesla.
Non. Voilà. Vous allez nous rendre méchants.
Et non, j'ai dit c'est pas.
Non, c'était une très très belle voiture. C'était des voitures qui étaient performantes pour l'époque, qui étaient même techniquement très avancées, puisqu'il y a eu le moteur culbuté. C'est une très très belle marque.
Moi, je pense que M. Vermorel devait avoir des enfants, parce que sur le modèle qu'on a devant les yeux, les places arrière, elles ne communiquent pas avec les places avant. Et je pense que pour la tranquillité du conducteur, il avait anticipé.
Ah, c'était différent. À l'époque, les enfants, je ne sais pas si. C'était surtout parce qu'il y avait un chauffeur et à l'arrière, c'était les passagers.
Ouais, vous voyez comme quoi. Hein. Non, effectivement, oui, c'est une voiture. C'est, finalement, on voit que c'était les débuts de la voiture, mais il y avait encore cette idée de la calèche, enfin, en tout cas, de la personne
oui,
qui conduit retrouve. Devant et oui. Puis derrière alors, ceux qui se font conduire.
C'est ce que j'expliquais. C'est pour ça aussi l'histoire du volant à droite. Volant à droite, ça rappelle l'époque de la calèche et l'époque des chauffeurs, parce qu'en réalité, vous ouvriez la portière du côté trottoir.
Et oui.
Voilà. Et c'est pour ça que pendant des années, même jusqu'à l'après-guerre, certains constructeurs ont eu le volant à droite.
Alors, on peut avoir une passion hein, sur les véhicules d'époque, mais d'ailleurs, on voit même qu'aujourd'hui, alors c'est pas aussi vieux que les modèles Vermorel, mais qu'il y a un engouement même des jeunes générations pour des véhicules qui... pour d'autres, étaient les véhicules de leur enfance, les
exactement.
BX, le Citroën, la
alors,
CX, enfin tous ces...
C'est ce qu'on appelle le mouvement Youngtimer.
Voilà.
Donc, qui est l'antichambre du véhicule de collection. C'est l'avenir, tout simplement. C'est les trois quarts des... Il n'y a pas que des jeunes. Hein, moi, personnellement, j'ai des Youngtimer. C'est la porte d'entrée de ces véhicules-là. Pour quelles raisons les trois quarts des jeunes ont ces voitures-là? Principalement, c'est la voiture de leur jeunesse. C'est la voiture du grand-père, c'est le souvenir de la voiture du grand-père, de leurs parents. Et donc, eux, c'est par nostalgie, quand ils ont l'âge de conduire, on rachète ce véhicule-là.
Pour certains, c'est aussi la voiture qu'on peut réparer soi. C'est-à-dire, c'est
exactement.
Un peu low-tech.
C'est encore des voitures, la génération Youngtimer, où on n'est pas encore 100%, on va dire, électronique ou tout ça. Et donc, un bon bricoleur ou un bon amateur est capable de se débrouiller et de la réparer, oui.
Et donc, vous, avec vos comparses, vous avez poussé le plaisir jusqu'à créer une fédération, c'est-à-dire qu'il y a des associations qui sont en plus après fédérées.
Oui.
Quel est l'intérêt, quand on a une passion comme celle de l'automobile, de pouvoir se fédérer? Qu'est-ce que ça apporte par rapport à une association, par exemple?
Principalement, la fédération, c'est surtout que, c'est un peu le terme, plus on est de fous, plus on a de poids. C'est surtout, quand on a aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, c'est pouvoir être l'interlocuteur au niveau des pouvoirs publics. Nous, on regroupe aujourd'hui c'est pratiquement 1500 clubs. Autant de les professionnels, je ne me rappelle plus, mais en gros, comme un paquet de professionnels. Et c'est cette force, quand nous, on discute justement par rapport, vous avez sûrement entendu parler des ZFE, des zones à faible émission, c'est de discuter, de dire que le véhicule de collection n'entre pas du tout dans cette catégorie-là, n'influe pas du tout sur la pollution, n'a aucune conséquence. C'est de défendre toutes ces choses-là. Et un peu, j'aime bien l'expression, c'est aux sorties permettre aux véhicules d'avant-hier, on va dire, de rouler sur les routes de demain.
Parce que alors ce véhicule qu'on a devant nous, je ne sais pas s'il roule, mais
il est arrivé par ses propres moyens.
Bon, il est arrivé par ses propres moyens. J'imagine qu'il ne répond pas totalement aux critères et aux normes actuelles. Donc normalement, peut-être qu'il n'aurait pas le droit de rouler.
Ah non, tout à fait. Non, c'est totalement. Alors c'est peut-être dans l'esprit des gens, non, c'est faux. Le véhicule doit être conforme à sa sortie d'époque. Il doit être conforme en réalité au code de la route de l'époque.
D'accord, de son année de sortie.
De son année de sortie. Donc celui-là est équipé de phares à l'avant, c'est le code de la route. Vous voyez, par exemple, bon, ça a été rajouté, je ne sais pas, c'est pas une évidence qu'il ait les clignotants à l'époque, ou ça a été rajouté aujourd'hui pour pouvoir circuler en toute sécurité dans la circulation actuelle. Mais non, le véhicule doit être conforme à sa sortie d'époque.
D'accord, donc... Il n'y a pas besoin qu'il y ait un filtre anti-particules pour pouvoir...
Non, pas du tout. Bon, de toute manière, ça ne pollue pas une voiture de collection.
D'accord. Ouais, c'est une voiture qu'on prend pour sortir, pour se faire plaisir.
Vous savez, en moyenne, on avait fait une étude, là, qui va donc, on a refait une étude qui va sortir sans tarder, là, probablement d'ici quelques jours, voire peut-être plus de 2-3 semaines, où on a justement refait une interrogation sur les collectionneurs, les clubs et tout ça. Vous savez, en moyenne, un véhicule de collection, c'est même pas 1000 km par an. Certains font même pratiquement 10 km. C'est insignifiant.
Du coup, ça fait cher du kilomètre quand même, la voiture de collection.
Ouais, mais c'est. Est-ce que vous connaissez une passion qui n'est pas chère?
Non, je ne connais pas.
Voilà. Donc,
je connais
pas. Mais bon, c'est pas forcément le critère. Vous savez, dans beaucoup de cas, ce sont les propriétaires qui refont leur voiture, donc qui prennent du temps, qui investissent en fonction de leurs moyens au fur et à mesure.
Et puis ça rend toujours service au cinéma, par exemple.
Mais bien sûr. C'est souvent
pour reconstitution.
Mais vous avez des gens qui se sont spécialisés d'ailleurs dans ce milieu-là, c'est-à-dire qui fournissent les voitures au cinéma. Mais c'est souvent, moi j'ai eu le cas, c'est souvent des productions qui vous contactent. Ils sont dans votre région, ils sont en train de tourner soit un téléfilm, soit un feuilleton, un truc comme ça. Et les producteurs vous contactent pour vous demander, vous auriez pas une voiture comme ça, parce qu'on a besoin de telle voiture pour la production. Et c'est souvent des particuliers qui leur voiture au cinéma.
Eh bien, en tout cas, merci bien pour cette petite discussion devant ce modèle Vermorel dont on connaît l'année ou pas?
Alors, je crois qu'il est de 1923.
De 1923. Ah oui, donc c'est un modèle qui a 101 ans.
101 ans.
Dites donc. Ça fait... Tout d'un coup, ça pose.
Ah ouais. Vous imaginez?
Je ne sais même pas s'il y a des... Mais peut-être que dans le parc, il y a des arbres qui sont aussi vieux, je ne sais pas. En tout cas, pas autour de nous, mais je pense que peut-être dans le parc,
peut-être, c'est possible.
Il doit y avoir des arbres aussi vieux que ça.
C'est bien possible, oui.
Mais
est-ce qu'on sera dans l'état de cette voiture là, quand on aura ça?
En tout cas, moi, je dois vous avouer, j'aimerais bien aller faire un tour quand même.
Je pense que c'est possible.
Mais ça doit être sympa quand même.
En principe, vous savez, c'est ce qu'on est... Alors, ça fait partie un peu de nos investissements. On incite les propriétaires de voitures, justement ce modèle-là, même des plus d'autres voitures, à faire conduire, notamment les jeunes.
Ah oui?
Oui, pour justement leur faire découvrir et leur passer le virus, et surtout les inciter à poursuivre l'aventure.
Oui, parce qu'en fait, en vous écoutant le dire, j'imagine, moi qui ai quand même déjà un certain nombre de décennies, je sais ce que c'est de conduire une 205, ce que c'est de conduire une AX ou ce genre de véhicule-là. Et déjà, ce n'est pas la même chose que conduire les véhicules de maintenant. Les véhicules avant, on avait des véhicules sans direction assistée, mais là, je ne sais pas ce que ça peut...
C'est plutôt une direction insistée. Là.
Je me demande bien ce que ça peut faire, oui, mais même d'avoir un gabarit comme ça, cette forme-là à conduire, ça doit être totalement différent dans les sensations.
Alors, je pense que c'est surtout ce qui va vous perturber sur ça, là, c'est la position des pédales.
Ah bon?
Oui, parce que en réalité, l'accélérateur est au milieu. Le champignon est au milieu.
Ça alors?
Voilà, donc c'est surtout cette différence. Il faudra d'abord vous habituer à la fonction des pédales.
Je suis désolé, mais franchement, le tableau de bord, il a de la gueule.
Ah oui, en aluminium bouchonné, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Ah
ouais. C'est avec les céleri en cuir, comme ça sent bon, quoi. Il y a une odeur, ça sent à la fois... Là. Ah non, franchement, ça donne envie d'aller faire un tour, je ne sais pas...
En fait, je ne sais pas si le propriétaire est par là, mais il faut.
Non, on va
si,
pas, on va pas le.
Non, mais aujourd'hui. Mais je pense que c'est prévu. Je pense que dans l'histoire, dans l'avenir, avec les projets qu'ils ont, je pense que c'est prévu de ce genre d'opération de pouvoir faire rouler les voitures avec des passagers ou même peut-être, pourquoi pas, un conducteur. Mais je vous dis, dans ce cas-là, quand même, ça nécessitera un petit apprentissage.
Ah oui, j'imagine. Ouais, j'imagine. Imagine une voiture comme ça, on se balade.
Ah mais moi c'est, j'aime bien.
Autoricole, vous voyez. Le...
Pourquoi pas. Mais ça pourquoi serait pas. Ça serait assez marrant, je trouve, assez original, qu'une auto-école propose des cours de conduite de véhicules d'ancêtres.
Ce serait pas mal, oui. Ouais.
Bon. Je pense que ça serait assez folklorique.
En tout cas, merci,
Jean-Louis
Taval, pour la Fédération française des véhicules anciens.
Époque.
D'époque, pardon. Ah, oui. Époque. Non, ils ne sont pas anciens d'abord, ils sont d'époque. Voilà. Ce n'est pas la même chose.
Voilà. Bah, je vous remercie aussi.
Et puis. Calade. Vous écoutez Calade. Il est 15h. Et nous, on va faire une petite pause musicale, un peu d'époque aussi, mais alors la chanson sera moins vieille que la voiture Vermorel qui est là. Mais on va écouter Myriam Makeba avec sa fameuse Click Song.
I can't do. There's nothing left to say. I've been trying hard, but the night is through. I'm lying in this bed, don't wanna go away. I see you in the dark, but you're sleeping already. Hold your pillow tight, 'cause I'll be gone in the morning. Grab your hands and I'll be gone. I'll be gone in the morning. Grab your hands and I'll be gone for a while. When you've broken your chains, yes, I'll be gone in the morning. Grab your hands, grab your hands. I'm looking in your eyes. I wanted us to last. Oh, do you recall?
call a song that I wrote, that you hear it. I know you've heard them all. I know I've been alive, but would you ever change? Have you ever thought about knowing your heart to keep us going on? I'll be gone in the morning, grab your hands, and I'll be gone for a while. When you've broken your chains, yes, I'll be gone in the morning, grab your hands. Your hands. Yes, I'll be gone in the morning. Clap your hands, and I'll be gone for a while. When you've broken your chains, yes, I'll be gone in the morning. Clap your hands, clap your hands. I'll be gone in the morning, and I'll be gone for a while. Yes, I'll be gone in the morning. Clap your hands, clap your hands.
Belle sur Calade, ma radio avec In the Morning. C'est pas pour rien que je vous ai choisi ce morceau, parce que pour moi, ce morceau, c'est celui que je préfère écouter en tenant une tasse bien chaude entre les deux mains. Vous savez, quand on rentre de dehors, la nuit commence à tomber et qu'on a envie de se poser et qu'on se prépare une bonne infusion. Et bien, c'était pour venir rencontrer Emmanuel. Bonjour.
Bonjour.
Qui propose justement de quoi faire de bonnes infusions.
Entre autres.
Entre autres, mais pas que, mais en tout cas, quand, sur la partie gauche de votre stand,
oui, tout à fait.
Il y a tout ce qu'il y a. Et puis, il y a des noms qui... Là, on était à une semaine de l'équinoxe. Alors, je vois, il y a solstice d'hiver, une infusion pour préparer.
Tout à fait, oui, avec des plantes bien réchauffantes pour la saison froide.
Parlez-nous, un petit peu de votre entreprise.
Alors, j'ai fondé Gan Eden il y a 2 ans.
On peut s'approcher un peu.
Hein, oui, bien sûr, je vous suis. Donc, je suis productrice de plantes aromatiques et médicinales. Je suis basée dans le Haut-Beaujolais, sur la commune de Propierre. Et je cueille en local, on va dire au maximum à 30 minutes autour du Haut-Beaujolais, les plantes sauvages. Et ça représente à peu près 10-15% des cueillettes qui sont faites. Sinon, tout est cultivé dans le Haut-Beaujolais, sur la propriété.
Donc il y a une partie des choses, effectivement, parce que ce sont des plantes sauvages qu'on va retrouver.
Oui, tout à fait, parce qu'on a une belle variété botanique quand même dans le Haut-Beaujolais.
Et c'est plutôt préservé aussi au niveau de la pollution, au niveau de...
Oui, parce que je ne vais pas forcément me faire que des potes, mais quand on va dépasser le stade des vignes et qu'on va tomber vraiment dans le Haut-Beaujolais, là, c'est vrai qu'on est sur un environnement qui est plutôt dédié à l'élevage. Et là, on va plutôt avoir un environnement qui va être assez protégé, oui.
Alors là, on trouve, on va dire, tous les indispensables de quelqu'un qui a envie de se soigner avec les plantes.
Oui, alors moi, je ne vous parlerai pas de soins.
Alors, on ne va pas parler de soins, mais en tout cas, qui a envie de préserver sa santé, en tout cas. Qui a envie de préserver son bien-être, tout à fait. Les plantes. Et puis, il y a des compositions que vous proposez avec des jolis noms. Alors, on a parlé du solstice d'hiver, il y a le lever de soleil, il y a la fée dodo. Donc
voilà, avec du coup, plutôt des plantes dédiées au sommeil, hein, voilà, pour passer une
douce
bonne
soirée
nuit.
Voilà. Aussi, voilà. Et puis, quand je disais, il y a tous les... toutes les plantes qui sont connues depuis des millénaires
pour être des plantes à vertu, les grands classiques.
L'achillée millefeuille, le souci des jardins, la verveine, l'hysope, la sauge. Et puis, bien sûr, vraiment, c'est mon préféré, le sureau noir, parce qu'il a tellement bon goût, celui-là.
Ah oui, il est magnifique, celui-ci. Oui, on trouve en abondance dans le Beaujolais, et très facile à cueillir. Et puis, on en fait des produits très sympas. Là, j'en ai pas, mais on fait un apéritif au vin de sureau aussi, qui est bien agréable à boire.
Et puis alors... quoi de meilleur pour, en buvant une bonne tisane, d'agrémenter cette bonne tisane, parce que juste à côté de vous, c'est bien fait, il y a un producteur de miel.
Les choses sont bien faites.
Les choses sont bien faites. Si vous venez à la Maison Vermorel, vous pouvez prendre un sachet ou plusieurs pour vous faire des infusions.
Pour ceux qui aiment sucré, on peut sucrer au naturel avec du miel. Voilà.
Du bon miel, soit du miel crémeux, du miel liquide. Et y a vraiment tout, c'est bien pensé, hein, bravo.
Oui, oui.
Et alors, vous ne préparez, vous proposez pas que des infusions
Non, parce que la plupart des plantes à infusion sont quand même aussi des condimentaires à la base. Oui. Hein, toutes les méridionales comme le thym, le romarin, la sarriette, voilà, se marient très bien. Enfin, beaucoup utilisées en cuisine. Donc, on peut avantageusement agrémenter, par exemple, des vinaigres pour leur donner une saveur particulière. Et puis après, vous avez tous les aromates pour la cuisine. Traditionnel, on va dire.
Donc, je rappelle que votre société, c'est Gan Eden.
Oui.
Vous êtes basé à Propierre.
C'est cela.
Et puis, il y a un petit bouquin que vous avez posé, là, qui est le Grimoire des sorcières. C'est vrai que peut-être
c'est
il y a quelques temps en arrière.
C'est pour le folklore, mais c'est tellement joli.
C'était, oui, mais en tout cas, c'est vrai que ce savoir là, que vous utilisez et que... est-ce que vous proposez, c'était un savoir aussi qui était assez féminin avant le savoir
C'était majoritairement un savoir de femmes. On va dire que jusqu'au XIIIe siècle à peu près, ça a été l'apanage des femmes que d'être dans le soin.
Et l'apanage et puis la panacée aussi.
Complètement. C'était des savoirs traditionnels qui se transmettaient. Et puis bon, malheureusement, c'est des choses qui sont perdues aussi. Hein.
Et qu'on retrouve aujourd'hui de plus en plus.
Et qu'on retrouve, oui, parce qu'il y a un vrai regain d'intérêt pour les thérapies naturelles. Et du coup, pour le mieux, on a beaucoup de gens qui s'intéressent à nouveau à l'apprentissage du métier d'herbaliste.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Emmanuel, c'est ça, j'ai
bien
retenu.
Oui.
Nous, on va faire une petite pause musicale, tiens, avec un morceau qui est, à mon avis, bien en lien avec ce qu'on vient de se dire. C'est Pomme et Clopelgag, Sorcière.
Ah, parfait.
Si tu portes du noir dans la vie, si tu sors le soir. We'll be right back.
Vous êtes toujours avec nous sur Caladma Radio en direct de l'automne Vermorel. On est juste devant la maison Vermorel. On avait prévu cette interview en intérieur, puis finalement, il y a tellement un beau soleil dehors que c'est plus sympa de se retrouver ensemble dehors. Et on a rendez-vous avec la compagnie de théâtre en pierre dorée, puisque à 18h, cette compagnie propose une pièce qui s'appelle « Terre et toi ». Alors, saison 2, je ne sais pas, on va en parler avec Valérie Blais. Bonjour Valérie.
Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Alors, quel est votre rôle au sein de cette compagnie, Valérie?
Alors, moi, j'ai la chance depuis 4 ans maintenant d'accompagner le Théâtre en pierre dorée, qui est une compagnie professionnelle basée à Thésée, qui organise chaque troisième week-end de juin un festival de théâtre, les Rencontres de Thésée, en plein air, au pied du château de Rochebonne. Et puis il y a 2 ans de ça, en 2022, donc fait une création, hein, c'est le propre des comédiens, qui s'appelle Terre et Toi. Et à l'occasion d'une première étape de lecture, on avait invité la direction des affaires culturelles de Villefranche, qui a eu un coup de cœur pour ce récit de territoire, inspiré de témoignages et d'archives à Thésée, avec le concours de l'association Patrimoine et Histoire à Thésée, et dont l'auteur, donc Clément Morinière, un des 3 comédiens cofondateurs, avait amorcé le récit. Donc on a eu comme ça, dans le cadre des saisons Vermorel, Terre et Toi 1, de programmer en 2023, au printemps et à l'automne, donc en septembre 2023. Et puis la direction des affaires culturelles et les élus de Villefranche et de la communauté d'Aglo ont fait confiance à la compagnie pour leur commander la suite du récit. Et c'est pour ça que ce soir, c'est la grande première de Terre et Toi 2.
Ça veut dire que les personnages avaient été appréciés alors? Il y avait quelque chose qui s'était créé autour de ces personnages?
Alors je pense avec les comédiens avant tout, parce que le propre des comédiens, c'est d'évoluer et de changer les rôles. Donc ce soir, on a un autre pan du récit, qui se place à une autre époque, puisque Terre et Toi 1, on traversait l'histoire et l'évolution de la vigne du XXe siècle. Et ce soir, on est un peu sur d'autres sphères plus futuristes. Voilà, en compagnie donc des comédiens Amandine Blancard et Damien Gouy.
Est-ce qu'on peut raconter en quelques mots quelle est l'histoire de Terre et Toi 2?
Alors, Terre et Toi 2, donc, c'est un deuxième volet. Quand on a joué le premier, les gens nous ont dit « Et alors, qu'est-ce qui va se passer pour les personnages ?» Alors, on pourrait s'attendre à ce que ce soit la suite de l'histoire, mais en fait, oui, quelque part, c'est une suite, dans le sens où Terre et Toi 1 va rester un petit peu comme un fantôme pendant tout le spectacle, mais les personnages sont différents. L'époque est différente, ça se passe dans le futur. Alors, le pitch... Un viticulteur et une viticultrice arrivent pour présenter leur vin dans un salon, au salon du vin. Ils installent leur stand, côte à côte, ils ne se connaissent pas. Ils attendent, personne n'arrive. Voilà, la pièce commence comme ça, dans le futur.
C'est mal barré quand même.
Alors, il se passe beaucoup de choses. Donc on parle de vignes, on parle de manières de faire, parce qu'on sait qu'il y a plein de manières de considérer le métier, de s'organiser. Mais aussi, on parle des fantômes, on parle de l'héritage, de nos aïeux, du poids de l'héritage, comment on se situe dans la société.
Alors, sans tout dévoiler, il y a 2 personnages, hein, dedans, il y a Louis et Cerise. Louis, lui, il suit la...
Il faut dévoiler les prénoms, déjà.
Déjà, on peut pas on peut changer de prénom, si vous voulez, hein, c'est pas un problème.
Hein. Bon, ça ira.
Ça ira. Non, parce que déjà, de toute façon, c'est dévoilé sur le programme.
Hein. Oui, bien sûr.
En tout cas, lui, il suit un peu une voie tracée. Il fait comme son père faisait, sans doute peut-être son grand-père aussi, dans quelque chose de plus conventionnel, et c'est peut-être sans trop réinterroger le sens de ce qui a été transmis.
En tout cas, c'est fait 6 générations que ces vignes appartiennent à sa famille, et donc il y a tout ce poids de l'héritage qui est interrogé, et donc une certaine façon de faire du vin aussi, et comment en fait lui il a pris le virage sans essayer de trop dévoiler non plus, mais lui il est plutôt parti, comme il s'est retrouvé tout seul, son père est décédé assez rapidement, sur le fait qu'il a des énormes vignes, et donc il est parti sur les robots, sur intégrer les robots dans la vigne, voilà. Alors que Cerise s'intéresse beaucoup plus est beaucoup plus proche de ce qu'on pourrait aujourd'hui peut-être s'apparenter au bio, au retour, à quelque chose de très très naturel. Voilà, qui n'empêche pas les robots, mais en tout cas, voilà, c'est deux visions différentes. En fait, l'idée, c'était de se confronter deux visions de l'avenir de la viticulture. En fait, c'est vrai que le
ce
rapport...
Ce sont deux histoires qui se déroulent déjà, hein, de toute façon, dans les...
Exactement. En fait, alors, parce que l'idée vraiment de Terre et Toi 1 et Terre et Toi 2, Terre et Toi 1, c'était une suite de témoignages du village de Thésée avec l'association Mémoire et Histoire. Et donc, on a tiré des fils de ce qui existait déjà et donc de ce qu'on a récupéré, en fait. Alors que là, Clément Morinière, et puis avec pas mal d'ateliers qu'on a fait, de rencontres qu'on a fait avec plein de viticulteurs, on a essayé de voir quel serait l'agriculture, la viticulture et la vinification dans quelques années. Alors, c'est vrai qu'on s'est déplacé, là, on ne le dit jamais, mais autour des années 2075. Et en fait, on s'est rendu assez vite compte qu'en rencontrant les viticulteurs, nous, on pensait que c'était dans 50 ans. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont déjà là dès aujourd'hui. Mais voilà, l'idée, c'était de pousser en fait vers le lointain pour se dire qu'est-ce que ce sera, en fait. Voilà.
Et il y a une autre différence entre les personnages, c'est que, effectivement, comme tu le disais, Damien, ton personnage a deux siècles d'héritage, de lignée de vignerons, de sa famille derrière lui, alors que Cerise, elle a beaucoup, beaucoup voyagé et elle ne vient pas du tout de ce milieu-là. Donc, elle a tout à créer.
Alors, la question, je ne sais pas si vous l'avez résolue, ou en tout cas, peut-être qu'elle vous a traversé dans l'écriture, mais ce que j'ai l'impression d'entendre en filigrane de cette histoire, c'est qu'on peut... être à la sixième, peut-être, génération de travailler la terre et ne plus avoir aucun lien avec la terre et le vivant. Et puis parfois retourner à la terre justement pour recréer un lien et pour retrouver un lien ancestral. Et que ces deux mouvements-là peuvent sembler...
à la base contradictoires, alors qu'en fait...
antinomiques.
Voilà. Et en fait, c'est un peu le parcours de nos deux personnages durant la pièce, durant une heure, où on s'aperçoit que finalement, même si on est très aligné dans nos techniques qu'on utilise... Le rapport à la terre est toujours là, que la transmission, de toute façon, on fait des métiers, on le dit à un moment, en fait, on fait des métiers anciens, on travaille avec la terre, la mémoire, et finalement, c'est tout ça qui est mis dans nos bouteilles.
Oui, et Clément a été vraiment très soucieux d'aller au-delà du clivage de technique,
oui.
De parler vraiment de l'humain avant tout, de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve à partir de choses que chaque être humain recherche.
J'imagine quand on vous a demandé d'écrire Terre et Toi 2, quand on a écrit quelque chose et puis que finalement on rouvre un espace de création, on n'arrive pas à le refermer totalement et qu'il y a déjà Terre et Toi 3 qui est déjà en gestation quelque part.
Alors vous êtes sûr, là. Première à parler de ça, pourquoi pas peut-être.
Non mais on a le temps, on s'est passé en 2075, donc là on a encore 50 ans devant nous. Je pense que, non, il y aura peut-être des évolutions de Terre et Toi 2, mais non pour l'instant, bon déjà en plus c'est la première tout à l'heure, donc on va déjà essayer de
petit pas par petit.
C'est rare dont tu es en train d'avoir un épisode 1, épisode 2.
Ouais,
c'était pas prévu.
Non, c'est vrai qu'à la base c'était pas prévu, mais en même temps, comme ça fait 14 ans maintenant qu'on a notre festival au château de Rochebonne, on côtoie en fait vraiment tous les milieux des viticulteurs et des vignerons et ces histoires de terre, d'héritage, avec tous les changements climatiques d'aujourd'hui, comment la vigne, le réchauffement climatique, en fait, comment la plante en elle-même...
C'était pas possible de ne pas parler du futur.
D'aujourd'hui en fait et du futur.
Qu'est-ce
qui
se passe en ce moment. Ouais.
Et ça nous plaît beaucoup d'être ancré en fait dans ce territoire quand même. On s'appelle Théâtre en Pierre Dorée. Pour travailler sur ce territoire des Pierres Dorées et ce territoire qu'elle a doit.
Est-ce que ces deux volets vont connaître d'autres représentations dans les semaines, les mois à venir?
Alors, oui, tout à fait. On a justement.
Ah, on voit que dès qu'on parle d'un truc d'organisation, c'est, tout
c'est la diffusion. C'est Valérie.
La personne qui maîtrise l'agenda.
Ouais. Oui, non, mais c'est le 10 novembre.
Le 10 novembre.
Les comédiens parlaient des personnages là-bas, mais on dit qu'il faut parler. Organiser. Hein, quoi? Il faut voir ça.
Non, c'est qu'on a beaucoup de dates dans la tête. C'est pour ça qu'on ne sait plus quel spectacle on doit jouer. On est sur 8 spectacles en même temps.
Plusieurs projets à la fois. Non, mais c'est vrai que Terre et Toi, on souhaite qu'il y ait évidemment une suite. Et l'objet aussi ce soir, on aura quelques partenaires et quelques programmateurs, c'est qu'on puisse continuer de le diffuser, de le présenter dans tout le territoire beaujolais. Les comédiens étaient allés faire une résidence au lycée Bel Air à Belleville aussi pour collecter et puis rencontrer les vignerons, les vigneronnes de demain. On faut aussi parler des viticultrices qui sont de plus en plus nombreuses.
Ouais.
Et donc, c'est vrai qu'on a réussi à capter l'intérêt des associations de patrimoine, de tourisme, donc qui joueront le 10 novembre dans le cadre des 60 ans des Amis de Charnay, donc à Charnay, dans les Pierres Dorées. Et puis, voilà, on est en pourparlers.
Et même, on va aller au-delà, puisqu'au mois de mai, on va aller travailler du côté de Blois. On va faire Terre et Toi 1, donc en tant que spectacle dans un théâtre, mais aussi au lycée agricole, à côté, dans le village à côté de Blois, à Amboise, voilà, qui ont été très intéressés aussi par ça, parce que c'est sûr que nous, on est partis de ces vignes ici, caladoises, des pierres dorées aussi, mais qu'en fait, les vignes, elles sont partout, donc on peut aller jouer partout.
Voilà,
c'est ouvert sur la nationale et l'internationale, parce qu'on essaye désespérément d'aller le faire en Italie aussi, sur les vignes italiennes, mais c'est pour bientôt, avec plein de choses. Et en Australie, peut-être.
Le Beaujolais est attractif et puis peut s'exporter. Et voilà, c'est ce qu'on souhaite vraiment à ces deux volets, 1 et 2. Et voilà, c'est pour nous contacter, il y a le site internet Théâtre Empire Doré avec les coordonnées.
En tout cas, fin du premier acte de cette interview. Finalement, on ne sait pas si on était dans une interview ou dans un début de scène.
Ils sont bons.
Merci à Mathieu Roir qui a réalisé cette émission qui était 100% mobile. Mais alors vous n'avez même pas idée à quel point on peut se balader partout, on peut passer dans tous les petits trous pour pouvoir faire une émission en direct. C'est parfait et c'est Mathieu qui en a eu l'idée, donc bravo à lui. Et merci aussi à André Dutronc qui est resté dans l'ombre, mais qui a été ce qu'on appelle un facilitateur. C'est qu'il prend les photos, il fait tout ce qu'il faut faire à côté. Donc merci à lui d'être venu nous prêter main forte aujourd'hui. Merci les camarades. C'était un plaisir de passer cette automne comme ça sous le soleil, sous les arbres et devant cette belle maison. Bonne représentation à la compagnie Théâtre Empire Doré ce
soir.
Merci
beaucoup.
Restez à l'écoute de Calade, on continue en musique et puis on va se mettre un petit peu de chaleur avec 21 Pilots Ride.
Stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, 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 oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Too much.
help me.
I've been thinking too much.
I've been thinking too much.
I've been thinking too much.
Help me.
I've been thinking too much.
I've been thinking too much.